Europe 1,
5h, 7h,
Mathieu Noël.
Bonjour à tous, bienvenue sur Europe 1, il est 4h57, nous sommes le mardi 2 juillet 2019 et c'est l'avant-dernière fois que je présente... Et là, les férus d'arithmétique auront fatalement tiqué.
Oui,
pourquoi Noël nous dit-il que c'est l'avant-avant-dernière fois qu'il parle de 5-7 alors qu'il reste 4 émissions? Ouais. Eh bien, l'heure est venue de vous l'avouer, ainsi qu'à la direction. M'étant planté dans les dates, ouais. Tout ça est véridique en plus, j'ai involontairement fait démarrer mes vacances vendredi. Enfin, vacances. Ce n'est pas vraiment le mot, puisque je serai en trek dans le massif du Mont Blanc. Peu d'hommes en sont revenus vivants. Il faut, mes agneaux, vous préparer au pire. Mais voilà, vous me connaissez, je suis un homme de défi, un homme qui aime repousser les limites. Un peu comme Eva Rock, la fois où elle avait tenté de traverser à la nage et sans flotteur une piscine chauffée de 20 mètres.
J'ai failli mourir.
M'arrête.
Non. Nous sommes avec Eva de cette étoffe-là, l'étoffe des Walter Bonatti, des Mike Horn. Heureusement, je vous rassure, j'ai pris un guide.
C'est ça le Mont Blanc?
Mais non, c'est le Mont Rose, là. Puis alors, tu vois là, c'est la dent du Guignol. Puis alors, la coulée du Grand Bronx, c'est derrière, là, mais on peut pas la voir.
Souhaitez-moi bonne chance, je ne suis pas sûr d'en revenir vivant. Et Baroque, une question pour nos auditeurs.
Dans 10 minutes, je nous considère comme définitivement perdus. C'est la journée mondiale des ovnis, cher ami.
Ah, alors, on a connu ça de Montfort.
Exactement, à cette occasion, non. Est-ce que vous y croyez, vous, aux ovnis ou pas? Et quel est le truc le plus fou que vous avez observé un jour dans votre vie? Il y a quelques réponses gratuites, vous allez voir.
Il y a des objets non identifiés,
oui.
Mais
exactement.
Pas tout à fait volants. Hein,
exactement,
c'est
sur Twitter et c'est avec le hashtag Europe 1.
À vos côtés, Eva, pour elle aussi, cette fin de saison, ses ultimes émissions, ce n'est pas facile à gérer émotionnellement. Forcément, Céline Dacosta, je sens que ça vous fait un pincement au cœur.
Au cul, un pincement au cul.
Oh là, non, pas du tout. Ça, c'est le trop-plein d'émotions, ça lui fait dire n'importe quoi, c'est le syndrome Gilles de la Tourette. Céline, un mot de la météo.
C'est drôle, je sais pas, mais...
C'est pas d'où ça sort.
On se demande parfois, oui. Alors, la météo, bah, c'est retour de la fameuse carte coupée en deux, vous savez, avec...
Ah, la France coupée en deux.
Voilà, sauf que là, c'est le soleil est du côté du nord, donc la moitié nord sous le soleil, et puis pour le sud, encore des éclaircies, mais surtout les orages qui arrivent cet après-midi.
Merci Céline. Mardi 2 juillet, on souhaite un joyeux anniversaire à Pierre Lescure, président du Festival de Cannes, créateur inoubliable de Canal+. Eva, en tant que spécialiste média, un mot de Pierre Lescure?
Je suis fan. Ses deux premiers albums sont magiques.
Très bien, on l'embrasse. Bien, 2 juillet, joyeux anniversaire également à l'acteur fétiche de Jérôme Lacroix qui réagit au quart de tour dès qu'il entend une de ses répliques cultes. Alors, petit PD, mon porte-bonheur.
Ah oui, taxi.
Ah, j'aime quand je parle des vrais cinéphiles. Joyeux anniversaire à Sabine Nasseri, héros de la saga Taxi. Et évidemment, modèle pour Céline Dacosta.
J'avais oublié de mettre mon frein à main ce matin.
Oui. Enfin, sachez que c'est un 2 juillet en 1934 qu'est née l'armée de l'air. L'occasion pour nous de féliciter les militaires français qui nous écoutent chaque matin, saluer leur courage, leur dévotion. Oui, Céline?
On peut toucher?
Bah non, c'était pas le propos. De vous les copains, c'est parti.
Nous sommes le mardi 2 juillet, merci d'avoir choisi Europe 1. Et très bon réveil, il est 5h. 5h-7h, Mathieu Noël.
Le premier journal de ce 2 juillet, c'est évidemment avec vous, Jérôme Lacroix. Bonjour.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Les titres.
Les employés de Conforama France ne s'attendaient pas à un plan d'une si grande ampleur. 1900 postes supprimés l'année prochaine, 32 magasins qui ferment. La direction doit l'annoncer ce matin aux salariés lors d'un CE extraordinaire. De violents orages ont frappé hier soir et cette nuit l'Isère, la Savoie, la Haute-Savoie. On déplore de nombreux dégâts matériels, des passagers bloqués dans des trains, des foyers privés d'électricité et une quinzaine de blessés légers. Et puis nous sommes le pays d'Europe qui en compte le plus. Les centenaires, leur nombre va décupler d'ici 40 ans. Pourquoi s'épanouissent-ils ainsi en France? Réponse en fin de journal.
Europe 1.
C'est un très amer départ en vacances qui se profile pour les 9000 salariés de Conforama France. La direction va annoncer aujourd'hui, lors d'un comité d'entreprise extraordinaire, la suppression l'année prochaine de 1900 postes et la fermeture de 32 magasins sur les 196 que compte l'enseigne en France. La nouvelle a été communiquée hier soir au représentant du personnel, Olivier Samin.
Le choc reçu tour à tour hier soir par la direction, les syndicats savaient que des mesures douloureuses étaient en préparation, mais pas aussi rapidement et pas d'une ampleur aussi importante. 32 magasins fermés, soit un peu plus de 1000 salariés au tapis, auxquels s'ajouteront près de 900 suppressions d'emplois dans les magasins restants, ainsi qu'au siège et dans les équipes du service après-vente. Au total, si le plan est mené à son terme, dans un horizon de 18 à 24 mois, un emploi sur 5 aura disparu chez Conforama en France. Très connu des consommateurs et implanté pour ainsi dire dans chaque sous-préfecture, La marque paye les conséquences d'un marché de l'ameublement et de l'électroménager grand public fortement déprimé l'an dernier, mais aussi et surtout les conséquences de la tourmente dans laquelle s'est retrouvé il y a deux ans son actionnaire principal, le groupe sud-africain Steinhoff, pris en flagrant délit de malversation comptable. Il y a deux mois, Conforama avait trouvé un accord avec ses créanciers. Il était question déjà d'une restructuration des magasins déficitaires. Le détail était attendu pour le printemps prochain. Il survient finalement aujourd'hui, juste avant le départ en vacances.
Olivier Samin, de violents orages ont touché hier soir et cette nuit les départements de l'Isère, Savoie et Haute-Savoie. Les pompiers sont intervenus près de 300 fois selon la préfecture. Importants dégâts matériels, chutes de branches d'arbres, toitures arrachées. Des dizaines de milliers de foyers ont subi des coupures d'électricité. Le trafic des trains a été très perturbé, notamment entre Valence et Grenoble. On déplore une quinzaine de blessés légers et une personne assez sérieusement touchée par la chute d'un arbre sur son camping-car.
Europe 1, il est 5h30.
À Paris, le parquet ouvre une enquête confiée à l'IGPN. La police des polices a prévu une intervention controversée des membres des forces de l'ordre vendredi. Des militants écologistes qui participaient à une manifestation non déclarée mais non violente ont été aspergés à bout portant de gaz lacrymogène alors qu'ils occupaient assis un pont parisien. À Lorient, le garçonnet de 7 ans fauché par un chauffard le mois dernier est sorti du coma. On l'a appris hier, l'enfant reste hospitalisé à Brest. Il a encore des difficultés pour la parole, notamment l'accident avait coûté la vie à son cousin de 9 ans. 3 mois et demi d'une grève qui se poursuit au sein des services d'urgence. Une grogne qui s'étend, 153 services concernés selon le collectif Interurgence. Appelle aujourd'hui à un rassemblement en fin de matinée devant le ministère de l'économie avant un cortège. Direction le ministère de la Santé où collectif et syndicats espèrent être reçus par la ministre de la Santé Agnès Buzyn. Cette dernière a récemment annoncé le déblocage de 15 millions d'euros, somme jugée insuffisante.
Et nous reparlerons de ce mouvement de grève des urgentistes. À 6h20, je reçois Patrick Peloux, président de l'Association des médecins urgentistes de France. Nous tirons avec lui également le bilan de la canicule.
La canicule, justement, 13 départements maintenus en vigilance orange, de la Haute-Savoie à l'Hérault. L'Hérault, où la Chambre d'agriculture annonce des milliers d'hectares de vignes brûlées ou impactées par les fortes chaleurs à un mois et demi à peine des vendanges. À partir de 11h ce matin à Bruxelles, nouvelle tentative pour les chefs d'État européens de se mettre d'accord sur les nominations aux postes clés de l'UE, notamment celui de président de la Commission. Troisième réunion, l'échec d'hier fait dire à Emmanuel Macron que l'image donnée de l'Europe, je cite, n'est pas sérieuse. À Hong Kong, les manifestants qui jugent leur gouvernement trop pro-Pékin ont été délogés du Parlement qu'ils ont occupé et saccagé plusieurs heures hier. Hong Kong est secoué depuis 3 semaines par un mouvement de protestation. Carrie Lam, la chef du gouvernement, condamne, je cite, l'invasion extrêmement violente du Parlement.
Pour finir, Jérôme, vivons heureux, vivons plus vieux.
C'est aujourd'hui, Mathieu, la journée nationale des centenaires. Ils sont 21 000 aujourd'hui dans notre pays. Ils seront 10 fois plus en 2060. La France est le pays européen qui compte le plus grand nombre de centenaires, même s'ils ne représentent qu'une part infime de la population totale. Mais pourquoi s'épanouissent-ils ainsi en France? Réponse Ève Roger.
5 centenaires sur 6 sont des femmes, nées pendant ou juste après la guerre de 14-18. Elles ont connu 15 présidents de la République et presque autant de dévaluations. Elles avaient 26 ans quand la sécurité sociale a été créée en 1945 et pour les spécialistes, c'est grâce à cette organisation typiquement française des soins, universelle et gratuite, qu'elles sont plus nombreuses ici qu'en Espagne ou en Allemagne. Elles s'entretiennent aussi un peu de marche, un peu d'exercice. Elles suivent l'actualité, regardent le JT et surtout continuent à profiter des plaisirs de la vie, comme Paulette Lerouzeau-Grève, dite Madame Lerouzeau, dans sa maison de retraite Corian, en région parisienne.
C'est d'écouter les enfants et les amis, parce que ça compte, les amis. Ça se compte souvent sur les doigts d'une main. J'aime la musique. J'aime Mozart, j'aime Beethoven. Et puis on fredonne, même si on n'a pas une voix extraordinaire. Charles Trenet, je chante un jour et matin, je chante sur mon chemin. D'abord, on a le cœur gai. Et puis, on ne dit pas des mal du voisin.
Mais n'allez pas croire que toutes les centenaires vivent en maison de retraite comme Paulette. Une sur deux vit encore chez elle, avec de l'aide, bien entendu. Ça veut dire quand même qu'elles ont encore des ressources.
Ève Roger.
Merci beaucoup. On passe au journal des sports. Dis donc, j'ai oublié le journal des sports. Mais attention, il faut que j'entretienne mes muscles avant ce trek. Journal des sports, mon cher Jérôme. À la une, la Juventus Turin qui lance le marché des transferts du foot.
Avec le recrutement hier d'Adrien Rabiot, le milieu français de 25 ans s'est engagé jusqu'en 2024 pour un salaire de 7 millions d'euros net par saison.
Ah, que le même qu'Eva, en brut.
Voilà.
Brut.
Ouais, là, c'est net. Net, ouais, net, ouais. Engagement net, ouais. Négocié avec
il a mieux négocié que vous, Eva.
Voilà, bah, lui, il a négocié notamment avec sa mère, hein, qui était aussi son agente Véronique Rabiot. C'est la sortie d'un tunnel de plus de 6 mois pour Adrien Rabiot, mis au banc du PSG, son club formateur. Il n'a plus disputé un match de foot depuis décembre dernier. Il est parti de Paris fâché, libre de tout contrat. Le PSG, du coup, ne touchera pas un centime sur le transfert. La Juve, octuple championne d'Italie en titre, est un très bon choix pour se relancer. C'est en tout cas l'avis d'Alain Roche, l'ancien bleu consultant européen.
Il rentre dans un club historique, qui est une vraie institution, où il va respecter le cadre de ce club-là. Sa mère aura beaucoup moins d'influence qu'elle a pu en avoir par moment. C'est un joueur qui a du volume de jeu, c'est un joueur qui est excellent techniquement, qui a tout pour réussir, et je pense que c'est le club idéal.
Et Adrien Rabiot doit être officiellement présenté dans la matinée. Ce soir, 21h, première demi-finale du Mondial féminin États-Unis-Angleterre à Lyon.
Le chiffre du jour.
50% le taux de réussite des Bleus du tennis, engagés hier au premier tour de Wimbledon. 4 sur 8 se sont qualifiés. Exploit du jeune Corentin Moutet, 20 ans, 84e mondial. Premier match à Wimbledon. Et il a sorti en 5 manches le Bulgare Dimitrov, classé lui 49e. C'est passé aussi pour Chardy, Père et Humbert, qui a profité de l'abandon de Monfils blessé. Côté dames, c'est fini pour Cornet et Garcia, mais super qualification de la toute jeune américaine Cori Gauff. 15 ans, 313e mondial, elle a sorti l'expérimentée Venus Williams. La jeune joueuse en a chaudement pleuré.
Eh bien, je vous remercie chaudement. C'était le journal des sports de Jérôme Lacroix.
Europe 1,
5h08, Mathieu Noël.
Debout les copains, continue avec le pressing, notre revue de presse en mode zapping. Et puis, changer l'huile moteur de sa voiture, c'est déjà toute une entreprise. Rien que les mots chiffon, 5W30, niveau, nous tétanisent. Alors changer de vie, vous imaginez? Chaque matin dans Fallait Oser, nous donnons la parole à ceux qui ont eu le courage de changer plus que l'huile de leur moteur. Ce matin, nous partirons à la rencontre de Sheila.
Une autre
Sheila. Mais d'abord la météo, Céline, quel temps fait-il en France? Temps sec et ensoleillé pour la moitié nord. C'est-à-dire que j'ai mal mis mes lentilles, donc j'ai eu du mal à lire votre petite feuille.
J'ai écrit très gros.
C'est vrai.
Ah oui, c'est toute la journée, hein, ce temps sec et ensoleillé. On aura quelques nuages, mais surtout sur les bords de Manche. Pour la moitié sud, c'est une autre ambiance. Un ciel bien couvert dès ce matin, sauf près des côtes méditerranéennes où là, il reste du soleil. Cet après-midi, ça deviendra bien lourd avec des températures qui augmentent. Ça va tourner à l'orage avec un risque d'orage fort même sur le sud du Massif central qui pourrait s'étendre au Languedoc. Il fait encore bien chaud dans le sud-est. Hein, pour l'instant, 13 départements sont toujours en vigilance orange canicule. La moyenne sur ce secteur ira de 30 à 38 degrés tout de même, 24 à 29 pour les autres, avec 26 à Paris, 21 à 25 près de la Manche.
Eva Rock, merci Céline.
Oui, c'est la journée mondiale des ovnis. Alors à cette occasion, on voulait savoir si vous y croyez ou pas et quel est le truc le plus fou que vous avez observé dans votre vie. Vous nous répondez sur Twitter avec le hashtag Europe 1. C'est le cas de Viviane qui vient de nous envoyer un message en disant, même si ça paraît dingue, c'est quand même bizarre d'imaginer qu'on est tout seul, non? J'aimerais bien voir des ovnis et mieux que ça, rencontrer E.T. et bisous à toute la coloc, nous dit-elle.
Gagné quand même, hein.
Et puis je vous lis le message de Thierry. Ce serait prétentieux de croire que nous sommes la seule espèce dans l'infinité de l'univers. Chose la plus étrange que nous pourrions observer, Eva ne buvant plus de vin.
Oh,
merci beaucoup.
Et là, continuez à réagir. Quelqu'un qui a bien suivi toute la saison,
voilà,
qui vous connaît bien.
Et oui. Alors, est-ce qu'il a dit plus de vin ou plus de vin?
Plus de vin, ça c'est quelque chose de facile, surtout à l'approche de l'été, on vous connaît.
Voilà.
Non, plus de vin, Eva, plus de vin. Merci à vous, chers auditeurs.
Europe 1, 5h, 7h, Mathieu Noël.
Vous écoutez Debout les copains, 2 heures d'infos, d'éclats de rire et de belles rencontres. Notamment vers 5h10 chaque matin, notre rubrique Fallait oser, où nous partons à la découverte de ceux qui un jour ont eu l'audace de changer de vie. Aujourd'hui, je vous présente Sheila Prado. Elle a 39 ans, elle vit en banlieue parisienne à Vélizy-Vélacoubé. Sheila a travaillé dans la gestion logistique dans l'aéronautique pendant 13 ans. Lassée de ce travail un peu répétitif, elle a eu envie de changer de voie et de renouer avec son pays d'origine, le Pérou. Elle fabrique désormais des vêtements en fibre d'alpaga.
Fallait oser.
Je me suis dit, en fait, stop, il faut que je trouve un sens à mon travail. Et là, je ne le trouvais plus, en fait. Et après, j'ai commencé à écrire ce que je voulais faire. Donc, je voulais voir le résultat de mon travail, donner un sens à mon travail. Et puis surtout, en tant que péruvienne, je me disais, je veux créer des passerelles entre la France et le Pérou. Voilà, chercher quelque chose qui puisse montrer mon pays autrement.
Elle a longtemps hésité avant de se lancer jusqu'à ce qu'elle trouve les fournisseurs péruviens avec qui elle avait envie de travailler, une entreprise intègre avec une fondation associée.
Elle se fournit donc auprès d'une société qui ne fait que du commerce équitable et qui emploie principalement des femmes. Elle récupère des fibres d'alpaga fines et naturelles et conçoit des modèles de vêtements. Et la commercialisation devrait démarrer en septembre chez la s'épanouit en tant que chef d'entreprise.
Je suis ravie, je suis en pleine forme, je sens une énergie. Pourtant, hein, je travaille avec le Pérou, donc il y a 7 heures de décalage horaire. Je me retrouve souvent à faire des réunions, pour moi, jusqu'à 22h, 23h, voire minuit. Parce que les gens, voilà, c'est l'horaire qui convient le mieux au Pérou. Et je me couche, et le lendemain, je suis réveillée, mais en pleine forme. Alors qu'avant, je faisais des horaires de bureau, mais c'était fatigant, j'allais pas motivée. Depuis que je suis sur ce projet-là, je suis agréablement surprise de trouver des gens qui sont prêts à aider, à faire avancer, à donner des conseils. C'était un vrai changement, oui.
Et ça marche. Ça marche. Celle-là a testé ses créations lors de différents showrooms et aura même son stand éphémère dans un centre commercial à Levallois-Perret à la rentrée.
Et alors, si vous aussi vous avez changé de vie, ben, il vous reste encore quelques jours pour nous écrire et nous faire part de votre expérience. C'est sur Twitter avec le hashtag Europe 1.
Ça sera l'occasion de mettre mon nouveau costume en alpaga.
Europe 1.
Il est 5h13, Mathieu Noël, on a hâte de voir ça.
Vous écoutez Debout les copains. L'OVNI.
Blanc, c'est pas mal, tiens.
L'OVNI ouais. Radiophonique qui combine information rigoureuse et décontraction zygomatique. Et ça tombe bien puisque, vous le savez maintenant grâce à Eva, c'est la journée mondiale des ovnis, phénomène qui depuis maintenant plusieurs centaines d'années fascine le plus grand nombre. Pourquoi d'après vous, Céline ?
Qu'avec les étoiles autour, ça doit être joli, voilà.
Super ! À suivre, comme Céline, fascinez vos collègues par la richesse de votre conversation. Grâce à Mardi les bons tuyaux, notre rendez-vous culture et high-tech. Au programme notamment, avant de prendre la route des vacances, du nouveau dans les applis GPS. Clément Le Saffre, notre expert numérique, vous expliquera. Clément, qui à 4 jours de la dernière, est déjà nostalgique de tous nos fous rires, toutes ces fois où je me suis foutu de sa gueule.
Fin du calvaire.
À tout de suite, mon poteau. Et puis bien sûr, ce sera votre point santé, le docteur Ichou vous connaît. L'été arrive, vous allez encore faire n'importe quoi.
Putain, c'est clair.
Et c'est pourquoi il vous parle ce matin des IST, les infections sexuellement transmissibles. En attendant, démarrons la matinée en musique. Voici Oman, Jane sur Europe 1. She was your light and she had your heart. The moment you saw her, she was the one. You were just a kid and never felt the heat. First love is deep. When you don't expect it. For the first time in your life, you loved so much, you could die. For the first time in your life, you saw her, you could fly. For the first time in your life, you loved her, she loved you back. For the first time in your life, you felt alive. You better cry, man, cry, man. It only means you care. You better cry, man. You better love, man. You better love, man. Love, man. It only means you share. You better love, man. You better cry, man. You better cry, man, cry, man. It only means you care. You better cry, man. You better love, man. You better love, man. Love, man. It only means you share. You better love, man. You better cry, man. Dancing in Rio, living the dream before the time goes and takes the lead. After a while, yeah, she had to go in another country away from you. J'adore la fin de cette chanson, cette petite guitare, presque flamenco, ça me plaît. Oman, c'était Jane sur Europe 1.
Il est 5h16. Voici l'essentiel de l'actualité avec vous, Mathieu Noël.
Les employés de Conforama France ne s'attendaient pas à un plan d'une si grande ampleur. La direction va annoncer aujourd'hui, lors d'un comité d'entreprise extraordinaire, la suppression l'année prochaine de 1900 postes sur 9000 et la fermeture de 32 magasins sur les 196 que compte l'enseigne. La nouvelle a été communiquée hier soir aux représentants du personnel. De violents orages ont touché hier soir et cette nuit les départements de l'Isère, Savoie et Haute-Savoie. Les pompiers sont intervenus près de 300 fois selon la préfecture. Importants dégâts matériels, chutes de branches, toitures arrachées, 100 000 foyers ont subi des coupures d'électricité. Le trafic des trains a été très perturbé, notamment entre Valence et Grenoble. On déplore une quinzaine de blessés légers. Enfin, à Paris, le parquet ouvre une enquête confiée à l'IGPN, la police des polices, après une intervention controversée des membres des forces de l'ordre vendredi. Des militants écologistes qui participaient à une manifestation non déclarée mais non violente ont été aspergés à bout portant de gaz lacrymogène alors qu'ils occupaient assis un pont parisien.
Europe 1.
Voici pour les principaux titres de ce 2 juillet et il est l'heure d'accueillir comme chaque matin Thierry Léger pour ses pronostics hippiques. Oui Céline ?
Je l'adore, je l'aime d'amour.
Ce qui est d'autant plus admirable que vous ne l'avez jamais rencontré puisqu'il est la seule chronique enregistrée de cette matinale. Merci quand même Céline, c'est beau d'être corporate jusqu'au bout. Bonjour Thierry, en même temps je pourrais vous dire au revoir Thierry, vous répondriez toujours.
Bonjour Mathieu, il y aura des courses cet après-midi à Vichy et mon pari gagnant sera le 106 Concerto des Dunes. Parmi les 14 chevaux au départ de ce quintet, c'est le seul trotteur âgé de 7 ans à défier ses aînés. En parfaite condition physique actuelle et irréprochable depuis le début de l'année, ayant engrangé plus de 100 000 euros de gains, il trouve ici une nouvelle occasion d'augmenter son compte en banque face à quelques vieux tontons en fin de carrière. Alors notez bien, pour cet après-midi à Vichy, réunion 1, dans la première course, le numéro 6, Concerto des Dunes.
Merci Thierry Léger.
Il est 5h18.
Europe 1, 5h, 7h, Mathieu Noël.
Vous écoutez Debout les copains et vous, auditeur lubrique qui chaque matin avait attendu le pressing la bave aux lèvres, espérant glaner des infos coquines sur les coulisses de notre colocation, vous allez être servi cette semaine puisque pour fêter la dernière ligne droite avant les vacances, nous ouvrons l'album souvenir DLC. Un album dont les pages collent un peu, certes, duquel émane une émotion palpable. Ah, que de souvenirs. La fois où Eva avait insisté pour que Gégé essaye sa brosse à dents électrique, juste pour voir.
Jean, tu l'as pas senti, coquin.
Ou la fois où, avec Céline et Gégé, on avait marché à pas de loup dans le couloir pour aller espionner Eva et son amant mexicain Don Chibro par le trou de la serrure.
Oh, trop mignonne. Oh, regarde comme elle se met sur ses petites pattes arrière.
Ah là là, on aura rigolé, certes. Ah, vous avez l'image, vous vous souvenez, hein? Eh oui. Eh bien, je vous avais fait la courte échelle. On aura rigolé, c'est vrai, mais Debout les copains, vous le savez, c'est avant toute chose une émission d'information pointue. Il ne faut pas l'oublier. C'est pour cela que chaque matin, nous nous efforcions en antenne d'être toujours sur le qui-vive, prêt à rebondir à la moindre dépêche AFP qui pourrait tomber. Concentration et professionnalisme, voilà les deux mamelles de ce programme, sans conteste.
Toi, tu mines des trucs, toi, Eva?
Le renard.
Vas-y.
Elle mime le renard.
Mime le renard.
Vas-y.
Bah, c'est un lapin, ça.
Le renouvellement de nos cartes de presse ne devrait pas être un problème. On passe au pressing. Notre revue de presse en mode zapping. À la une de vos quotidiens ce matin, les amis. L'Europe s'impose. Alors que le processus de domination au poste clé est bloqué, le Figaro titre, l'Europe se déchire sur le choix de ses dirigeants. Même constat ou presque pour les Échos, Europe, le casting introuvable. Retour en France pour le Parisien et l'Huma, le premier écrit en une, le parcours du combattant des touristes à Paris, propreté, sécurité, transport, les guides touristiques tirent la sonnette d'alarme sur la qualité de l'accueil des touristes. Enfin, l'Huma titre, la température monte encore aux urgences, sujet sur lequel nous reviendrons avec notre invité à 6h20, l'urgentiste Patrick Peloux. Mais vous, mes adorables perdreaux, qu'avez-vous d'initié à la place ce matin, Eva Rock, puisque vous êtes en parfaite condition pour faire votre chronique. Eva Rock, on vous écoute.
Comment ça avec Jérôme Lacroix?
La France vous écoute. Non, on ne commence pas avec Jérôme Lacroix, qui lui est prêt. On commence avec vous, Eva.
Oh là là.
Moi, on peut pas commencer par moi, c'est pas drôle du tout.
Je vais vous parler de la rentrée. Hein. Je sais, oui. Les vacances n'ont pas encore commencé, mais certains ont déjà les yeux rivés sur la rentrée de septembre. Ce sont les libraires, les éditeurs et les auteurs. Je vais y arriver.
C'est si compliqué que ça?
Ah oui, c'est compliqué.
La marmotte, le renard et le lapin.
Ah oui, c'est sûr.
Jérôme Lacroix est-il prêt?
Bah oui.
Alors
oui.
Jérôme Lacroix va commencer. Et pendant qu'Eva se remet ses émotions.
En plus, c'est une étude dont le Parisien se fait l'écho ce matin et ça vous concerne. Voilà, là, j'ai pas parlé d'animaux, là. Il y a certains mots-clés qu'il ne faut pas dire.
Je crois que vous pouvez dire n'importe quoi, elle rira toujours.
Voilà, c'est la surprise. Alors, écoutez, ça vous concerne. Si vous comptez les heures avant les vacances.
Ah bah oui,
est-ce que par hasard, ça concerne quelqu'un ici? Alors, l'étude a voulu savoir si les Français restaient motivés à l'approche de la quille. Ben, réponse... Pas vraiment. Plus d'un travailleur sur deux lâche sérieusement du lest.
Deux sur deux, j'ai l'impression, Eva Rock et Céline Lacosta. Voilà.
51%, une étude réalisée par une agence d'intérim, l'agence d'intérim CAPA. Alors dans le détail, figurez-vous que, et ici on n'en a pas l'illustration, les dames sont censées être les plus endurantes, plus consciencieuses
alors là,
que les hommes.
Alors là, t'as une belle photographie de la société française dans le studio. Avec Gégé, on est sérieux, ouais, on va jusqu'au bout. Et t'as les deux folles qui ont complètement lâché l'affaire. Parce qu'on n'est pas filmé en vidéo avant 6h, mais elles sont complètement, elles sont loin du micro et elles pleurent dans des mouchoirs. Oui.
44% des femmes ralentissent le rythme quelques heures avant seulement, avant le grand départ.
Ah, c'est et ce non pas quelques l'étude. Jours avant.
Voilà,
hein.
Quelques heures
c'est important
avant.
De le préciser.
Et côté messieurs, 41%, donc contre 44% pour les femmes, ont déjà bien lâché l'affaire plusieurs jours avant que la cloche ne sonne. Alors, pourquoi le relâchement est-il davantage masculin, normalement?
Oui.
C'est une histoire de perception, raconte l'article. 29% des hommes estiment en effet que l'activité professionnelle est moins dense à partir de mi-juin déjà.
Ah, tiens.
C'est, voilà. 20% considèrent que c'est le cas à partir de début juillet, donc c'est la période qu'on traverse en ce moment. Alors que côté dames, 24% d'entre elles pensent que la productivité diminue bien plus tard, à savoir début août. Il y a quand même beaucoup de différences entre les hommes mi-juin et les femmes mi-août en ce qui concerne, je lâche l'affaire pour le boulot. Alors, dans les entreprises, observez bien vos collègues aujourd'hui. Chacun a sa petite méthode pour passer l'épreuve de l'insupportable attente avant la libération. Le Parisien en a interrogé quelques-uns. Alors, il y a ceux comme Ludovic. Lui, il travaille dans le marketing et il attend de partir vers l'Italie et il fait tout pour se faire oublier des collègues et des patrons. Il dit « Je reste discret pour ne pas avoir de boulot en plus ». Bon, il y a aussi la méthode un peu plus « bourrin », entre guillemets, pied dans le plat, on va dire. Ceux qui prennent carrément une RTT pour le vendredi, plus pratique pour préparer
ça,
les
valises.
Ça, c'est
absolument dégueulasse.
Partir
ceux qui
le samedi,
partir un vendredi quand les grands étaient sont là, c'est vraiment mesquin.
Je n'ai pensé à personne en choisissant cet extrait-là. Et puis, il y a ceux qui conjuguent un peu les deux, quoi, qui avouent organiser leurs vacances sur leur temps de travail, dis donc. Trouver un hôtel, peaufiner l'itinéraire et l'excuse qui est la leur et bon, qui peut être recevable.
Je n'ai jamais vu Eva sur Trivago ou Expedia au bureau. Ah bah, jamais.
Hein,
oui. Moi votre écran quand même là.
Aucun problème là.
Qui appartient maintenant.
Sur l'hashtag Europe 1 toute la journée. Eux, ils disent leur excuse, c'est on n'est pas à 10 minutes près quand on part du bureau. C'est donc un juste retour des choses. Voilà l'excuse.
Merci Jérôme. Eva, êtes-vous
oui.
en état?
Non, non, je suis en état. Je voulais vous parler de la rentrée littéraire. Vous allez vous apercevoir qu'entre août et septembre, il y a près de 600 nouveaux romans qui sont attendus. 600. Alors comment se démarquer? Eh bien, l'Express nous plonge dans ce qui ressemble à des speed dating littéraires. En fait, chaque année, les éditeurs convient des libraires, des blogueurs à une présentation des futurs romans. Ils ont 10 minutes montre en main pour chaque bouquin.
Oh là là,
certains auteurs viennent eux-mêmes faire de la retape auprès des professionnels. Sereins, experts ou empruntés, ils passent leur grand oral, marquer les esprits, faire en sorte qu'on ouvre leurs livres, tel est leur défi, écrit la journaliste. Draguer les libraires, c'est ça, c'est une tendance, car ces agitateurs culturels sont des prescripteurs de plus en plus influents, au-delà de la seule sphère de leur clientèle. Alors à cela s'ajoutent deux autres tendances, ce qu'on appelle les offices à façon. En fait, avant, les libraires recevaient des cartons entiers de romans à paraître. Aujourd'hui, c'est eux qui choisissent. D'où l'idée de les briefer et de les séduire. Et puis, autre tendance, c'est la volonté des grandes enseignes de donner le « là » de la rentrée littéraire à coup de prix et de sélection. Les indépendants se sont accordés sur cette tendance et distinguent eux aussi des auteurs. Résultat, depuis le mois de juin, eh bien, la rumeur enfle entre professionnels. Les noms qui circulent déjà de cette rentrée littéraire et qui pourraient avoir des prix, eh bien, on parle de Karine Thuil, Monica Sabolo, Yann Wax, Laurent Binet ou encore Jean-Paul Dubois. Et vous allez découvrir notamment dans cet article comment Gallimard tente de séduire les libraires. Invitation pour 200 d'entre eux à venir dans l'hôtel particulier de la maison d'édition pour découvrir les œuvres, avec petit four hein, au passage évidemment. Ceux qui n'étaient pas invités ont pu suivre l'événement sur YouTube. Et Albin Michel aussi innove avec des Facebook Live, exercice auquel se sont déjà livrés Amélie Nothomb et Alexis Michalik. Des écrans, et oui, pour donner envie de lire, c'est quand même un vrai paradoxe.
Oui. Voilà
c'est-à-dire
dans
l'Express. Voilà.
Merci beaucoup Eva Rock. Céline Dacosta, vous m'avez l'air bien studieuse.
Oui, parce que j'essaie de raccourcir, forcément, avec tout ça, on a perdu du temps.
C'est ça quand on passe en dernier.
Avec un sourire de 3 minutes du début, effectivement, on a perdu peu de temps.
Parce que là, on ne va pas rire. J'ai choisi cet article dans le Figaro. On nous parle de couples désireux d'avoir un enfant via la procréation médicale assistée, la PMA, mais pour une raison, choisir le sexe de leur enfant. Ça paraît fou et c'est inquiétant, mais c'est possible. Et dans l'Union européenne, où légalement c'est pourtant interdit, vous allez comprendre. Pour ça, il faut partir à Chypre. La subtilité, c'est que cette île est coupée en deux. Le sud dépend de l'Union européenne. Le nord de l'île est occupé par l'armée turque depuis 1974, qui fait sa propre loi sur les questions de PMA. La législation est beaucoup plus permissive. L'article nous raconte le parcours de Nicolas et Amina. Ils sont français, parents de 3 filles. Ils veulent un garçon. Et c'est possible, hein, techniquement, pour choisir le sexe d'un bébé. L'obstétricien fait un diagnostic génétique pré-implantatoire appelé DPI, une technique fiable à 100% pour le choix du sexe. Ensuite, il y a tout le parcours d'insémination et de fécondation in vitro. Amina sait qu'en Europe, c'est interdit, mais en quelques clics sur Internet, elle va trouver l'annonce de cette clinique à Chypre, où c'est possible, celle du professeur Ululas. Un coup de fil et on lui explique que le prix de la FIF plus une semaine en pension complète à l'hôtel plus le billet d'avion, c'est 7 400 euros. Deux mois plus tard et après un traitement hormonal qui se fait sans ordonnance, ils sont là-bas et ils sont nombreux, ces couples désireux de choisir le sexe de leur futur enfant. Plus de 5000 se rendent chaque année dans les 16 cliniques présentes sur l'île de Chypre, un chiffre qui augmente chaque année de 30%, des couples qui viennent du monde entier, qui attirent en plus les plus jeunes comme les plus vieux, puisque la loi turque n'impose pas de limite d'âge quant à la PMA. Il y a des femmes de 55 à 60 ans qui vont là-bas pour ça. Amina et Nicolas, deux jours après l'intervention, ont la bonne nouvelle d'avoir un test de grossesse positif. Quatre mois plus tard, ben voilà, c'est confirmé, c'est un garçon qui naîtra en bonne santé. Dans la foulée, Amina envoie un mail de remerciement au docteur Lulas, qui lui se trouve à l'étranger, figurez-vous, où il suit un nouveau séminaire sur les prochaines étapes d'une FIV qui pourrait permettre le choix de la couleur des yeux ou des cheveux du nouveau-né. No comment, j'ai les poils qui se dressent quand je lis. C'est à lire dans le Figaro.
Passionnant article. Merci beaucoup Céline, merci à tous, même si, bon...
Quoi,
on a un petit peu eu un gros fou rire ce matin. Quand même.
Oui,
c'était pas
désolé,
très sérieux.
Pardon,
hein, le jour où on parle de l'article sur les gens qui sont déjà en vacances avant les vacances.
Oui, c'est vrai.
Voilà,
alors
attention.
Que nous, on ne part pas en vacances jeudi soir, par exemple.
Pour vous, oui, c'est vrai. C'est vrai, par exemple.
Et
certains vont même continuer de bosser pendant l'été.
Exactement.
Donc maintenant, je vous propose qu'on se reprenne. Tout ce qui suit va être éminemment sérieux. Vous pouvez me faire confiance.
Europe 1.
Il est 5h28, Mathieu Noël.
Debout les copains, continue avec le journal d'Hélène Zeleny. Spectaculaire réveil à l'écoute d'Europe 1.
Mathieu Noël sur Europe 1.
Mais avant cela, Céline Dacosta, un point sur la météo de ce 2 juillet. Encore des orages sur la moitié sud.
Oui, ils ont été violents hier en Haute-Savoie. On l'a vu avec Jérôme Lacroix. Les vigilances ont été levées, mais on surveille déjà les suivants. On a déjà quelques coups de tonnerre en ce moment entre la Gironde et la Dordogne. Les orages les plus violents devraient arriver cet après-midi avec de bonnes rafales de vent et de la grêle, surtout entre le sud du Massif central et le Languedoc. On aura encore du soleil près de la Méditerranée ce matin, beaucoup moins cet après-midi. Pour la moitié nord, c'est plus calme, du soleil toute la journée et quelques nuages présents près des côtes de la Manche.
Et les températures sont encore chaudes dans le sud-est.
Oui, bien chaudes, hein, puisque la moyenne ira de 30 à 38 degrés cet après-midi, 38 attendus à Nîmes. Pour l'instant, 13 départements sont encore en vigilance orange canicule de la région Rhône-Alpes à la Méditerranée. Chaud aussi à Lyon, 29 degrés, 31 à Grenoble. Pour les autres, ce sera agréable, mais moins chaud. 28 à Nancy, 26 à Paris, 24 à Lille, 22 à Brest et Cherbourg, 21 même au Havre et à Caen. Ce matin, on relève un 10 degrés à Rennes, 15 à Paris, 18 à Biarritz, 22 à Bastia et déjà 27 de Granis.
Merci Céline.
Europe 1, 5h, 7h, Mathieu Noël.
Vous écoutez Debout les copains, le 5-7 qui a lu Proust, mais aussi Santonio. À suivre, à l'heure bientôt des départs en vacances, c'est la hantise du conducteur qui résonne dans l'habitacle, le fameux
« Faites demi-tour dès que possible ».
Bonne nouvelle, des applis GPS plus futés débarquent pour l'été, on vous les présente dans Mardi les bons tuyaux, notre rubrique culture et high-tech. Et puis, vous avez rendez-vous avec le docteur Ichou, un docteur qui cette saison aura su nous apporter des réponses claires et rassurantes aux interrogations que nous avons pu avoir dans le domaine de la santé, et ce, même hors antenne. J'avais une infection atypique, une bactérie atypique.
Oh là.
Un mycoplasme. Mais c'est le mycoplasme, ça touche les adultes, ça touche les jeunes adultes.
Et surtout les parties génitales.
Comment ça? Ah bon? Non. Éminent spécialiste des parties génitales, Marcel tenait à finir la saison en beauté en vous parlant ce matin des infections sexuellement transmissibles.
Oui.
Super.
Bienvenue sur Europe 1, il est 5h30. Mathieu Noël.
Le point sur l'actu de ce 2 juillet 2019. Bonjour Hélène Zeleny.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
À la une ce matin Hélène.
De violents orages sur la région Auvergne-Rhône-Alpes, des dégâts, une quinzaine de blessés légers, mais sérieusement en Haute-Savoie. Les 28 se retrouvent à 11h ce matin à Bruxelles. Hier, malgré 18 heures de négociations, ils n'ont pas réussi à se mettre d'accord sur la nouvelle équipe dirigeante. Et puis, première demi-finale du Mondial féminin de foot ce soir, États-Unis-Angleterre à 21h. On va y revenir dans le journal des sports.
Europe 1.
Vent très fort et chute de grêle, de violents orages ont donc frappé cette nuit la région Auvergne-Rhône-Alpes. En Haute-Savoie, un homme a été grièvement blessé par la chute d'un arbre sur son camping-car. Le toit d'une salle des fêtes s'est en partie effondré pendant un concert de rock. Les 200 spectateurs sont sains et saufs. Des dizaines de milliers de foyers se sont retrouvés sans courant dans le département, mais aussi en Isère et en Savoie. L'Isère, où 15 personnes ont été légèrement blessées selon la préfecture et où deux TGV ont été longuement bloqués en gare de Saint-André-le-Gaz et de Bourgoin-Jallieu.
Un autre TGV Paris-Grenoble a dû stopper à Lyon. Dans tous les cas, les passagers ne pourront repartir que ce matin. Enfin, dans la Loire, 124 personnes ont dû être évacuées d'un camping à Saint-Pierre-de-Beuf sur les berges du Rhône.
Les 28 vont tenter de se mettre enfin d'accord.
Oui, après la nuit blanche d'hier, troisième tentative pour attribuer les postes clés des institutions européennes, notamment la tête de la Commission. Hier à la mi-journée, les chefs d'État s'étaient quittés après 18 heures de négociations infructueuses. Isabelle Horry, vous êtes à Bruxelles pour Europe 1. Qu'ont-ils fait pendant cette pause de 24 heures ?
Déjà, ils ont dormi et c'est tout sauf anecdotique. Sept d'entre eux, dont Emmanuel Macron et Angela Merkel, ont enchaîné le G20 d'Osaka avec la nuit blanche à Bruxelles. Le manque de sommeil a pesé sur les débats. D'ordinaire, dans les négociations européennes, le fait de travailler avant l'aube aide à accoucher de solutions, raconte un diplomate. Mais cette fois, c'était une source de crispation. L'ambiance entre les 28 se tendait, il fallait calmer les esprits, a reconnu le président de la République. Depuis hier, il y a aussi eu des consultations, bien sûr, notamment pour faire réfléchir les premiers ministres de la droite conservatrice qui ont lâché Angela Merkel. L'Irlandais Varadkar, par exemple, qui a pourtant besoin de Paris et Berlin sur le dossier Brexit, ou le Croate Plenković, que la chancelière avait été soutenir pendant sa campagne électorale. On va leur faire passer quelques messages, expliqué hier soir une source européenne. Est-ce que cela suffira ? Honnêtement, plus personne n'ose faire de pronostics. Mais le temps presse, car le Parlement européen doit élire demain son président. Les dirigeants doivent boucler aujourd'hui s'ils veulent influencer ce choix.
Isabelle Horry à Bruxelles, reprise des discussions donc ce matin à 11h. Coup de massue pour les salariés de Conforama. Les syndicats savaient qu'un plan social était en préparation, mais pas de cette ampleur. 1900 postes supprimés l'an prochain, 32 magasins fermés. Un comité central d'entreprise extraordinaire est convoqué ce matin au siège de la marque en région parisienne. Et puis, nouvelle journée de mobilisation pour les personnels des urgences en grève depuis la mi-mars. Selon leur collectif, plus de 150 services suivent le mouvement. Aujourd'hui, une manifestation est prévue à Paris entre les ministères de l'économie et de la santé.
Europe 1, il est 5h33.
13 départements du quart sud-est toujours en alerte orange canicule et des dégâts conséquents pour les vignes.
Oui, dans l'Hérault et le Gard, avec un mercure jusqu'à 46, ces vignes ont sérieusement souffert. Des milliers d'hectares ont été brûlés. En revanche, dans le Bordelais, ces très fortes chaleurs ont eu des effets bénéfiques. Elles sont arrivées suffisamment tôt, n'ont pas trop duré et ont permis aux vignobles de se préserver d'un redoutable champignon, le mildiou. Philippe Bardet, viticulteur à Saint-Émilion.
C'est un très très bon début. C'est comme si dans un match de foot, on fait 2-0 dans les 10 premières minutes de jeu. C'est pas gagné, mais c'est bien parti.
Les 4 jours de canicule, c'est les deux buts dont vous parlez là.
Pour nous à Bordeaux, totalement. Cet extrême-là, si précoce, est très intéressant pour la vigne à Bordeaux. Parce que les raisins étaient encore petits. Lorsqu'ils sont petits, néoformés, ils sont très sensibles au mildiou. Le mildiou n'aime pas du tout les canicules. Donc ça nous a permis de faire un traitement ultra efficace contre le mildiou et économiser énormément de pesticides. Ça, c'est une première bonne chose. Deuxièmement, la nature étant bien faite, la vigne qui manquait pas d'eau parce qu'il n'y avait plus suffisamment au printemps, elle avait les pieds dans l'eau, mais la vigne, malgré tout, a pris le signal comme quoi il allait faire chaud et il risquait de faire sec. Physiologiquement, elle se met à protéger ses raisins plutôt qu'à produire des feuilles et des rameaux. Donc ça, c'est une très bonne augure pour la qualité du millésime en cours.
Un viticulteur de Saint-Émilion au micro européen de Stéphane Place.
Un nouveau palier franchi dans la crise qui secoue Hong Kong depuis 3 semaines.
Oui, des manifestants ont occupé et saccagé le Parlement pendant plusieurs heures hier avant que la police anti-émeute n'intervienne. La chef du gouvernement Carrie Lam dénonce une violence extrême. Et puis la fille de Donald Trump, Ivanka, objet de toutes les moqueries sur les réseaux sociaux. Tout est parti d'une vidéo publiée sur le compte Instagram de l'Élysée, filmée lors du sommet du G20 au Japon. On y voit Ivanka Trump, également conseillère de son père, en train de tenter désespérément d'intervenir dans une conversation entre Theresa May, Justin Trudeau, Emmanuel Macron et Christine Lagarde, sauf qu'elle est royalement ignorée.
Merci, c'était le journal d'Hélène Zélani. Et alors que la période des festivals arrive, signalons l'événement de l'été aux Vieilles Charrues. Les 18, 19 et 20 juillet, Hélène Zélani reprend les plus grands tubes d'NTM.
J'arrive. Si tu veux pas qu'il glisse,
fous donc ton gilet pare-balles
à base de pop. Passe le ouinge. Il y a du monde sur la corde à linge.
Pendant qu'Hélène continue de se chauffer la voix, je vous propose le journal des sports de Jérôme Lacroix. Et oui. Et oui, Lens. C'est l'heure où on ouvre l'album souvenir de l'année, vous savez. Ça va être comme ça jusqu'à
culte.
Vendredi.
Ça, c'est culte.
À la une du journal des sports, Jérôme, la chute d'un champion du monde.
C'est Adil Rami, le défenseur qui n'a pas joué lors du mondial remporté l'été dernier par les Bleus du foot, mais dont la joie de vivre a été un plus d'importance dans le groupe. Rami, 33 ans, n'a pas pu accéder hier au centre d'entraînement de son club, Marseille. Pour la reprise, il est ciblé par une procédure disciplinaire mise à pied pour faute grave. Il risque une sanction, peut-être jusqu'au licenciement. Le club lui reproche d'avoir manqué un entraînement en mai dernier. La goutte de trop en épilogue de la saison tourmentée d'Adil Rami à l'OM, Jean-François Pérez.
C'est un refrain hélas bien connu dans le football, celui du joueur couronné, adulé, mais qui n'arrive plus à enchaîner, la tête perdue dans les nuages. Depuis la glorieuse campagne russe, le jovial Adil Rami n'est plus que l'ombre de lui-même. Sur le terrain, une accumulation de blessures et de contre-performances. En coulisses, des retards, voire des absences à l'entraînement et globalement un manque d'implication qui ont fini par lasser ses dirigeants. Grisé par son nouveau statut, l'ancien employé municipal de Fréjus a également vécu sous le feu des projecteurs une liaison amoureuse avec l'actrice Pamela Anderson. Celle-ci s'est terminée dans l'amertume et des menaces de procès de part et d'autre à mille lieues de son métier de footballeur international et de l'exigence qui va avec. C'est justement ce que déplore notre consultant Alain Roche.
Quand on s'appelle Adil Rami, quand on est champion du monde, qu'on a plutôt une très bonne image de l'extérieur, d'un garçon sain, mais là on doit être irréprochable.
Il y a quelques semaines, Adil Rami avait promis, je cite, « de péter la baraque cette saison avec l'OM pour faire oublier cette séquence cauchemardesque. Il pourrait ne même pas en avoir l'occasion dans un club condamné aux économies et qui se délesterait volontiers d'un de ses plus gros salaires. »
Jean-François Pérez.
Première demi-finale du Mondial féminin ce soir, Jérôme.
États-Unis-Angleterre, 21h, les ambitieuses anglaises face aux favorites, championnes en titre, tombeuses de la France. Ces américaines emmenées notamment par Megan Rapinoe, militante LGBT opposante à Trump. Elle impressionne jusque dans le camp adverse. Phil Neville est le sélectionneur anglais.
J'admire les gens qui se battent pour ce en quoi ils croient. Et j'admire les fortes personnalités comme Megan Rapinoe qui disent ce qu'elles pensent sur beaucoup de sujets importants. Elle se bat pour l'égalité, pour la diversité, pour l'inclusion. Quand on a des valeurs, quand on a une tribune pour exprimer ses valeurs, pour exprimer ses opinions et qu'on veut avoir de l'influence, c'est bien de le faire. Et moi, je suis admiratif de Meghan et de tous ces gens qui se battent pour des bonnes causes. Moi, je trouve que c'est formidable.
Et seconde demi-finale demain, Suède-Pays-Bas.
On termine, Jérôme, avec deux personnalités encore du jour ce matin.
Roger Federer et Rafael Nadal, les deux joueurs de tennis entre-temps lisses aujourd'hui à Wimbledon contre deux hommes classés au-delà de la 80e place mondiale. Hier, qualification notamment de Per Chardy-Humbert et du jeune Moutet, 20 ans, exploit face au Bulgare Dimitrov.
Merci, c'était le journal des sports de Jérôme Lacroix, prodige du sport et aussi prodige des mots, puisqu'il fêtait vendredi dernier son 150e jeu de mots pourri.
FRME de gagner.
Bravo mon GG, elle ferait mieux de gagner. Allez vous reposer pour nous revenir encore plus fort tout à l'heure pour votre troisième journal des sports.
Europe 1. Et les 5h39, Mathieu Noël.
Vous écoutez Debout les copains, deux heures pour tout savoir de l'actu sans jamais oublier d'en rire en compagnie des plus fabuleuses complices qui soient, Eva Roque et Céline Dacosta. Et mesdames, tendez l'oreille car l'été arrive. Or, qui dit été dit plage, spritz, bikini et infections sexuellement transmissibles. Comment les diagnostiquer? Comment les éviter? Le docteur Ishou nous explique. Et attention aux idées reçues idiotes quand vous vous croyez prémunis, alors que ce n'est pas le cas, comme notre chroniqueur cinéma Mathieu Charrier.
Impossible, elle porte un stérilé.
Mais non. Mais tout de suite, il est l'heure de faire un point sur le temps de ce mardi. Céline Dacosta, dites-nous tout.
Encore des orages aujourd'hui, toujours sur la moitié sud. Orages qui sont déjà présents dans le sud-ouest ce matin et qui concerneront toute la moitié sud cet après-midi, qui pourrait être fort avec du vent, de la grêle entre le Massif central et le Languedoc. Au nord de la Loire, c'est plus calme, hein, quelques nuages près des bords de Manche, mais surtout du soleil. Et ça, toute la journée, le tout sous des températures agréables, hein, 24 à 29 degrés, il en fera 26 à Paris. Un petit peu moins près de la Manche, 20 à 24 degrés, mais encore très chaud dans le centre-est et le sud-est. 30 à 38 degrés, toujours 13 départements pour l'instant en vigilance orange canicule dans ce secteur.
Merci Céline, vous me faites peur quand vous agitez cette feuille en me regardant, j'ai l'impression que j'ai fait une bêtise, j'ai l'impression que vous me grondez.
Un petit peu, hein.
Ouais. Eva Roque.
Les journées mondiales des ovnis, alors est-ce que vous y croyez ou pas? Vous nous racontez ça depuis ce matin, 5h. Merci pour cette production musicale incroyable. Et puis le truc le plus fou que vous avez observé, vous nous dites tous sur Twitter avec le hashtag Europe 1. Alors Jérôme, il nous dit, je vous rappelle que ovni c'est objet volant non identifié. Et effectivement, quand mon ex était énervé, je n'ai pas eu le temps d'identifier les objets qu'il me lançait. Sophie nous dit qu'elle est fan de la première heure d'X-Files, donc oui, elle croit aux ovnis et aux extraterrestres, mais elle n'a jamais fait de rencontre du troisième type. Et puis, Elvie Love nous dit, si les ovnis n'existent pas, comment expliquez-vous Mathieu Noël? Je ne l'explique pas, cher ami. Je ne l'explique pas.
Je ne viens pas d'une autre planète, je viens de Suisse. Bon, c'est à peu près
c'est
équivalent.
C'est ça, je n'osais pas dire. Ouais.
Merci à vous.
On embrasse les Suisses.
Europe 1, 5h, 7h, Mathieu Noël.
Mais 5h41, c'est l'heure de notre point santé. Bonjour Marcel Ichoux.
Bonjour Mathieu.
À l'approche des vacances, docteur, vous nous mettez en garde car le nombre de cas d'infections sexuellement transmissibles est en très nette augmentation ces dernières années. Comment s'explique cette recrudescence?
Eh bien parce que l'usage du préservatif, qui est le seul rempart contre les IST, les infections sexuellement transmissibles, n'est plus systématique. En effet, le sida, vécu jadis comme une nouvelle peste, fait nettement moins peur aux nouvelles générations, puisqu'on a à notre disposition maintenant des thérapeutiques efficaces contre le sida. Vous confirmez, Mathieu ?
Oui, effectivement.
Mais il faut quand même rappeler que, bien qu'il existe des traitements très performants contre le VIH, cette maladie reste potentiellement grave et nécessite une surveillance permanente. C'est donc paradoxalement les succès thérapeutiques qui augmente l'incidence des infections sexuellement transmissibles, par un usage moins systématique du préservatif. Le préservatif est utile et efficace contre quasiment toutes les IST. Alors, on va les énumérer, pour votre plus grand plaisir, Mathieu. La syphilis, les chlamydiés, le gonocoque, les mycoplasmes, le papillomavirus, l'herpès et l'hépatite. Les dernières enquêtes ont montré que dans la population étudiante, l'utilisation systématique du préservatif est tombée à 50%.
C'est extrêmement peu. En pratique, quelle attitude adopter pour se protéger, docteur ?
Il faut d'abord connaître les modes de contamination et de transmission. Alors, les liquides biologiques qui transmettent les germes sont le sang, le sperme, les sécrétions vaginales. En revanche, la salive n'est pas contaminante, sauf exceptionnellement pour l'hépatite B. La contamination par ces liquides biologiques sera plus ou moins importante en fonction des pratiques sexuelles. Alors, je sais qu'à cette heure matinale, c'est peut-être un peu délicat, mais la pénétration anale est l'une des plus à risque compte tenu de la fragilité de la muqueuse. La pénétration vaginale comporte aussi des risques importants. La fellation comporte un risque théorique pour le VIH, mais beaucoup moins important qu'avec les autres pratiques. En revanche, le risque de transmettre par fellation le germe de la syphilis, de l'herpès ou de l'hépatite B reste important. Donc en cette période estivale et avant les vacances, il vaut mieux penser à prévenir avant d'être en situation, car comme disait le poète, sexe chaud n'a pas de cerveau.
Oh, ça c'est beau.
Donc, messieurs, cet été...
Lamartine, je crois.
Messieurs, cet été, sortez couverts et mesdames, sortez avec de quoi couvrir, si vous me permettez l'expression.
Vous avez bien
voilà
raison.
Le bon conseil. Merci Marcel Ichoux, on se retrouve demain, 5h40, pour un nouveau point santé.
Europe 1.
Il est 5h43, Mathieu Noël.
Vous écoutez l'ultime semaine de Debout les copains. 2 heures d'infos et de rire au son de... Mais de qui, Céline, d'ailleurs ?
Good and the Gang.
Mais
non,
oh,
Earthwind and Fire.
Raté une fois de plus après un an, c'était Earthwind and Fire. Mais un jour, Céline réussira à distinguer Cool and the Gang et Earthwind and Fire.
Jour,
à suivre,
ouais.
Mardi, les bons tuyaux, le meilleur de l'actu culture et high-tech sur un plateau. On parlera littérature et on vous facilitera vos déplacements cet été sur les routes de France grâce aux dernières innovations en matière d'applications GPS. Sauf évidemment, Céline, si en matière d'innovation, vous avez un sujet plus intéressant.
À Caen, on développe un pavé à base de coquilles Saint-Jacques totalement recyclé. C'est une bonne idée.
Oui, c'est bien ce que je pensais. Donc on reste sur les applis GPS. En attendant, une parenthèse musicale. Voici Juliette Armanet, l'Indien sur Europe.
Les champs d'opale dans mon ovale, tout métal au visage pâle, drôle de fleur, un Indien dans mon cœur.
c'était Juliette Armanet sur Europe 1 que je vous invite à découvrir dans la vraie version de cette chanson et pas la version radio qui est quand même beaucoup mieux.
Il est 5h47. Voici l'essentiel de l'actualité avec vous, Mathieu Noël.
Deux violents orages ont touché hier soir et cette nuit les départements de l'Isère, la Savoie et la Haute-Savoie. Les pompiers sont intervenus près de 300 fois selon la préfecture. Importants dégâts matériels, chutes de branches d'arbres, toitures arrachées. 100 000 foyers ont subi des coupures d'électricité et le trafic des trains a été très perturbé, notamment entre Valence et Grenoble. À partir de 11h à Bruxelles, les chefs d'État européens vont une nouvelle fois tenter de se mettre d'accord sur les nominations aux postes clés de l'Union européenne, notamment celui de président de la Commission. Troisième réunion, l'échec d'hier fait dire à Emmanuel Macron que l'image donnée de l'Europe, je cite, n'est pas sérieuse. Enfin, à Hong Kong, les manifestants qui jugent leur gouvernement trop proche de Pékin ont été délogés du Parlement qu'ils ont occupé et saccagé plusieurs heures. Hong Kong est secoué, je vous le rappelle, depuis 3 semaines par un mouvement de protestation. Carrie Lam, la chef du gouvernement, condamne, je cite, l'invasion extrêmement violente du Parlement.
Europe 1.
Voici pour l'essentiel de l'actu de ce 2 juillet et tout de suite, direction Vichy, où nous attend l'impayable José Coves, qui nous aura régalé tout au long de la saison, et pas que par ses pronostics.
Bonjour, debout les copains, ce n'est pas rien. Et la meilleure mise en selle, à Cabourg, je bourre. Quand il y en a bourre un, il y en a bourre deux. Oh, qu'est-ce que c'est bon.
Oui, bonjour José Coves, c'est très 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 bon.
Ah oui, c'est un comique croupier, exactement. Deux sources sûres, c'est à Vichy, sur l'hippodrome que se dispute cette première course support du Quintet Plus, parmi les 15 trotteurs au départ, mes premiers choix. Le numéro 6, Concerto des Dunes, d'une générosité exemplaire, il va de nouveau lutter pour la victoire. En Dante, le 10, n'est pas sorti des 4 premiers lors de ses 4 dernières sorties. 25 mètres devant, s'élancera le 3, Alto Duro, très affûté, c'est la bonne surprise. Sur cette piste, le numéro 12, Bad Jewelry, c'est à cœur vaillant, rien d'impossible. Le maestro Jean-Michel Bazir, au départ du prix qui porte son nom, est au sulky du 15. Le lunatique Black Jack Fromm, ça passe ou ça casse. Trois autres possibilités, le 11 Alinea, un autre caractériel capable du meilleur comme du pire. Le 4 Bob Magic, une petite place est à sa portée. Et le 2 Bleu Blanc Bleu, surtout courageux. Mon ticket pour cette première course vers 13h50. D'abord le 6, le 10, le 3, le 12 et le 15. Et ensuite le 11, le 4 et le 2.
Je note qu'en Dante, le 10 a trouvé la bonne cadence, José.
En Dante a changé de tempo, il est passé d'allegro à presto. Résultat des courses dans sa musique, que de bonnes notes. Et quand la musique est bonne, elle donne, elle sonne. Et ça suffit pour se faire la belle. Mathieu, vous avez raison d'écouter Jean-Jacques Goldman.
Quand la musique est bonne. Merci, José Coves.
Il est 5h49.
Europe 1. 5h, 7h. Mathieu Noël.
Vous écoutez le 5-7 d'Europe 1. Debout les copains continue avec notre séquence culture et nouvelles technologies. Voici mardi les bons tuyaux. Les meilleurs experts d'Europe 1 réunis autour de la table. Enfin, les meilleurs experts d'Europe 1, moins Diane Chenouda, notre spécialiste expo, qui hier concluait sa chronique de la plus belle des manières, la plus professionnelle aussi.
On ne sait plus trop où est le terre, la terre et le ciel. D'ailleurs, je ne sais plus très bien moi-même ce que je dis, puisque j'ai failli dire le ciel, la ciel et le terre. Bon, bref.
Aujourd'hui, nous devrons nous contenter, hélas, des Varrocks pour les écrans, Clément Le Saff pour les nouveautés high-tech et notre dandy des lettres, Nicolas Carreau, qui, contrairement aux vilaines rumeurs, n'est pas du tout en mode pré-vacances. Pas vrai, Nico? Content d'être là?
Ouais, c'est cool. Ah, j'ai pas pris le bouquin, tiens. Bon.
On s'en fout, hein, il y a deux jours. Bon, alors Nicolas, on commence quand même par vous. Le dernier numéro d'America vient de paraître. America, c'est la revue de littérature américaine et c'est en carton. Hein.
Et oui, dans la lignée des revues 21 ou 6 mois, c'est un trimestriel grand format créé au moment de l'élection de Donald Trump. Elle propose d'explorer l'Amérique contemporaine par le prisme de la littérature et des écrivains. Disponible en kiosque et en librairie à 19€, c'est devenu un succès éditorial. Les fondateurs espéraient en vendre 15 000 au premier numéro. Le dernier s'est écoulé à 45 000 et se classe dans les listes de best-sellers. On y trouve des entretiens au long cours, des nouvelles inédites ou des extraits de romans. America ne donne pas dans le format zapping. 200 pages sans pub. La revue mise sur le prestige des écrivains invités. Toni Morrison, Douglas Kennedy, Salman Rushdie ou James Ellroy quand même. Mais aussi, à l'heure du numérique, America parie sur l'objet livre. Écoutez Julien Bisson, le rédacteur en chef d'America.
C'est-à-dire pas un magazine qui va finir dans votre poubelle jaune, mais un véritable livre tous les 3 mois que vous allez ranger dans votre bibliothèque. Donc il y a une véritable attention sur la qualité du papier, la qualité des images, la qualité des photos. On a envie que ce livre-objet marque un peu son temps et que vous allez avoir envie de le garder comme une photographie de notre époque.
Et que trouve-t-on dans ce dernier numéro, justement, Nicolas ?
C'est vrai qu'il est beau. Et dans le dixième s'intéresse à l'American Dream. Que reste-t-il du rêve américain ? On y trouve aussi un dossier sur Salinger, l'auteur de La Traqueur, un grand entretien avec T.C. Boyle. Chez eux, grand entretien, ça veut dire plus d'une vingtaine de pages. Il y a un texte de David Vann aussi, l'auteur de Sequoia Island. Si vous n'avez pas lu Sequoia Island, lisez-le vite. Ou une analyse de Lionel Shriver, l'auteur de We Need to Talk About Kevin, qui parle de Trump. L'article est intitulé « Pourquoi Trump nous rend fou. Ensuite, il n'en restera plus que 6 des revues America, puisqu'elles s'arrêtent en même temps que le mandat de Donald Trump.
Ah,
oui, c'était
prévu
dès le départ comme ça. Et si vous collectionnez tous les numéros, la tranche des revues dessinera une grande carte des États-Unis, comme les jeunes lire.
Voyons voir. Je regarde la tranche. Ah oui, effectivement, il y a une carte. Ah. Effectivement.
Ah, c'est pas mal, et en même temps, c'est un peu triste donc. Quand il y a des.
Mais ne soyez pas triste d'avance, vous avez encore plusieurs mois, Ella. D'accord. Profitez de l'instant présent. Sachez
c'est comme
profiter.
Des livres, on peut les relire.
Oui. Exactement.
C'est vrai.
America numéro 10 en kiosque ou en librairie. Merci beaucoup, Nicolas Carreau. On passe au numérique à présent avec vous, Clément Lesaffre. Ça va être bientôt encore plus facile de se déplacer avec Google Maps.
Ouais,
donc,
Google
c'est
Maps,
déjà assez facile.
C'est
hein.
déjà extrêmement simple.
Oui.
C'est déjà extrêmement riche.
Passer,
bah, ça va être encore plus fouillé puisque désormais, dans le calcul de nos trajets en transport en commun, et bah, Google Maps va intégrer les retards en temps réel pardon, et la fréquence. Des lignes en fait surtout. Jusqu'ici, Google Maps n'intégrait dans ses transports en commun que les travaux ou les stations qui étaient fermées, donc c'était déjà très pratique. Bah là, on pourra quand même encore plus anticiper ses trajets. Il y aura un petit graphique, vous savez, comme celui des magasins qui nous indiquera les heures de pointe, les heures creuses pour nous aider
ça.
À savoir quand
oui.
y aller et pas trop faire la queue, etc. ou pas trop être, dans le cas présent, coincé dans les rames de métro. Et bah, en France, ça va donc bientôt être mis en place pour les bus et les métros. Ce sera à Paris, Bordeaux, Lille et Marseille.
Et comment Google peut arriver à un tel niveau de précision ?
Mais en fait, Google a passé des mois à collecter des données sur la fréquentation et la ponctualité des transports en commun des centaines de villes dans le monde. Et la majorité de ces données étaient renseignées par les utilisateurs eux-mêmes. Donc c'est assez fiable, c'est-à-dire qu'il y avait des questionnaires, on demandait aux gens, bah, est-ce que votre bus est plein à telle heure ? Est-ce que votre ligne de métro est bouchée ou pas ? Et grâce à ça, bah, Google a pu obtenir tout un tas de stats. On a par exemple appris que la ligne 13, cauchemar des Parisiens s'il en est, est la cinquième ligne de métro la plus fréquentée au monde.
Ah, carrément.
Et ouais, tout s'explique.
Ceci explique cela.
Et bah, donc toutes ces stats sont assez intéressantes. Pour nos infos, mais au-delà de ça, bah, Google va pouvoir surtout affiner encore plus précisément avec tout ça ses propositions d'itinéraire en fonction de l'heure et donc de la ligne qu'on va emprunter.
Et pour ceux qui n'aiment pas trop le côté Big Brother de Google, il y a une autre alternative, Quant Maps.
Oui, on ne présente plus un Quant maintenant, c'est le moteur de recherche français qui ne collecte pas nos données personnelles. Eh bien, il vient de lancer sa propre version de Maps hein, pour concurrencer Google Maps. C'est un premier jet, tout n'est pas encore au point, notamment les trajets proposés qui sont parfois un peu étonnants. Mais la promesse de
Faut passer par Sydney.
Vous le vendez bien, le mode français.
Globalement, tout va très bien, c'est juste que des fois, il y a des trajets un peu plus longs. On se demande pourquoi ils nous les proposent alors qu'ils nous proposent à côté des trajets plus rapides de toute manière. Mais dans tous les cas, la promesse de Quant, elle reste la même. Quant Maps ne collecte pas nos données de trajet. On peut quand même conserver, malgré tout, ses préférences. Hein. Vous savez, pour les garder en mémoire, c'est plus simple. Et bien, dans ce cas, les données sont stockées directement sur le téléphone et l'ordi et pas sur un serveur à distance.
Merci beaucoup, Clément Lesaffre, pour ces innovations. Eva Rock.
Eh bien, sur le site d'Arte en VOD, vidéo à la demande, est disponible un documentaire pour lequel j'avais eu un coup de cœur au moment de sa sortie au cinéma en France. C'était en 2017, il y avait eu une première diffusion sur Arte. C'est un film de Raoul Peck qui s'appelle Je ne suis pas votre nègre, qui a été auréolé d'une nomination aux Oscars et d'un César du meilleur documentaire. Alors Raoul Peck retrace à partir d'un texte de James Baldwin, écrivain très impliqué dans la lutte pour les droits civiques proche de Malcolm X ou encore de Martin Luther King. Il retrace donc l'histoire des combats des Noirs aux États-Unis et l'assassinat de 5 de ses amis. James Baldwin, qui a vécu de nombreuses années en France, jusqu'au jour où deux nouvelles émeutes raciales en Amérique le poussent à rentrer pour prendre part au combat.
C'est alors que j'ai vu cette photo, placardée sur tous les kiosques de ce grand boulevard parisien. Les photos de Dorothy Counts, 15 ans, nous faisaient face. La foule l'injuriait et lui crachait dessus, alors qu'elle se rendait en classe, à Charlotte, en Caroline du Nord. La fierté, la tension et l'angoisse se lisaient sur le visage de cette fille. Alors qu'elle approchait du temple du savoir, les sarcasmes de l'histoire dans son dos. Cela m'a rendu furieux, cela m'a rempli à la fois de haine et de pitié. Et j'ai eu honte. L'un d'entre nous aurait dû être là avec elle.
Vous avez peut-être reconnu la voix de Joey Starr qui assure le doublage français de ce documentaire remarquable. Le travail d'image entre archives et séquences d'actualité mêlées aux mots de James Baldwin offre un film très puissant. Puissant parce que, en fait, au-delà des dénonciations de l'écrivain, ce dernier évoque avec intelligence les questions d'identité, la notion d'appartenance à une nation, un regard sensible sur une Amérique qui n'en a toujours pas fini avec ses questions de discrimination raciale. En 1987, James Baldwin meurt en laissant une version inachevée de ce manuscrit et ce film aussi est un hommage à son œuvre. Ça s'appelle Je ne suis pas votre nègre et c'est à récupérer en VOD sur le site d'Arte.
Merci beaucoup Eva, merci à toute l'équipe des Montuaux qui se reformera demain. Et Clément, demain, ça sera mon avant-dernière. Là, vous allez enfin vous lâcher, hein ?
Comment ça va ?
Ça va, ça va.
Oh, comme si,
eh ben, on a hâte d'être demain.
Europe 1. Il est 5h57, Mathieu Noël.
À suivre dans Debout les copains, votre météo avec Céline Dacosta, le journal de 6h02.
Céline Kellman. Mathieu Noël. Ah oui, il faut que je donne une feuille.
C'est l'heure de la météo, Céline. Donc effectivement, en même temps c'est à moi, mais en même temps c'est aussi à vous.
Exactement.
Il fait encore chaud dans le sud-est.
Oui, des températures encore élevées, puisque la moyenne ira cet après-midi de 30 à 38 degrés. On en attend 38 à Nîmes. Pour l'instant, 13 départements sont toujours placés en vigilance orange canicule de la région Rhône-Alpes à la Méditerranée. Chaud aussi du côté de Lyon, forcément 29 degrés, 31 à Grenoble. Pour les autres, ce sera agréable. Chaud, c'est l'été hein, quand même. 28 à Nancy, 26 à Paris, 24 à Lille. Un petit peu plus frais hein, du côté des côtes de Manche, avec 22 à Brest ou à Cherbourg, 21 même au Havre ou à Caen. Ce matin, c'est assez doux, à part à Rennes. Hein, petit 10 degrés, 15 à Paris, 18 à Biarritz, 22 à Bastia et déjà 27 à Nice.
Et côté ciel, c'est lourd et orageux sur la moitié sud.
Oui, des orages qui ont été violents hein, hier en Haute-Savoie. Les vigilances ont été levées, mais on surveille déjà les suivants. On a déjà quelques coups de tonnerre dans le sud-ouest ce matin. Les orages les plus violents devraient arriver cet après-midi. On les retrouvera principalement dans le sud du Massif central et le Languedoc avec de bonnes rafales de vent et encore de la grêle. On aura du soleil près de la Méditerranée, surtout ce matin, beaucoup moins cet après-midi. Et pour la moitié nord, ben là, c'est plus calme et ensoleillé, du soleil toute la journée avec à peine quelques nuages près des côtes de la Manche.
Merci Céline.
Mathieu Noël, tous les jours de 5h à 7h sur Europe 1.